Et en studio, en ma compagnie, Tommy Richard Leboeuf-McGregor, directeur général de l'organisme Vivre avec la fibrose kystique. Bonjour. Est-ce que je peux vous appeler Tommy Richard?
Oui, il n'y a pas de problème.
Bonjour, Tommy. Bonjour. Richard. Merci d'être chez nous au Canal M. Alors, Vivre avec la fibrose kystique, c'est un organisme qui existe, je lisais, depuis 1985, depuis oui. 33 ans. Oui. Et vous, ben, je ne veux pas faire d'âgisme, là, mais vous avez l'air très, très jeune. Donc, vous n'étiez pas là au début.
Non, mais en fait, moi, j'ai 32 ans, donc je suis né l'année suivante de la création de l'organisme.
Presque en même temps que la création de l'organisme.
Oui.
Et vous êtes là depuis combien de temps à titre de directeur général?
Moi, ça fait maintenant 4 ans.
4 ans. Et, oui. Parlez-nous un peu de cet organisme. Quelle est sa mission?
Oui. En fait, nous, c'est de promouvoir et défendre les droits des personnes qui ont la fibrose kystique au Québec et de soutenir les proches, également les personnes qui ont la maladie. Une chose qui est quand même assez unique avec nous, c'est qu'on est le seul organisme au monde en fibrose kystique à être géré et administré majoritairement par des personnes qui ont la maladie.
Ouais.
Donc, ça nous permet de faire, de rendre des services qui sont bien adaptés à la réalité des personnes qui ont la maladie partout au Québec.
Ouais. Alors, vous-même, vous avez la maladie?
Oui, j'ai la maladie, puis ça fait maintenant 5 ans que je suis greffé bipulmonaire.
Ah, est-ce que ça veut dire que vous êtes guéri?
Oui et non. En fait, ça veut dire que les poumons en soi sont guéris, mais la fibrose kystique est une maladie qui touche presque l'ensemble des organes du corps, mais l'aspect mortel de la maladie demeure l'aspect respiratoire, donc dans les poumons.
Ouais.
Donc, on peut dire que j'ai encore la maladie partout, sauf dans les poumons.
Bon.
Oui.
Et ça va mieux depuis cette greffe-là?
J'ai une vie qui est presque parfaite.
En
fait, moi, avant ma greffe, j'ai attendu quand même 2 ans et demi avant de l'avoir. Il me restait moins que 48 heures à vivre quand je l'ai eu. J'étais sur oxygène à grande quantité, en fait. Puis,
j'imagine, comment vous vous sentiez 48 heures à vivre si vous n'aviez pas des bonnes nouvelles?
Oui, mais en fait, moi, je paniquais pas parce qu'évidemment, ça faisait 2 ans et demi que j'attendais une greffe. Dans les derniers mois, je vous cache pas, c'était très difficile. Je pouvais pas vraiment me déplacer. Donc, je m'étais quand même fait à l'idée de la possibilité de ne pas l'avoir. Donc, j'étais quand même assez serein par rapport à ça. Donc, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Quand je l'ai eu, l'opération s'est super bien passée. Depuis ce temps-là, bon, je suis en pleine forme.
Ça s'est passé en quelle année?
En 2013, donc en mars 2013. Depuis ce temps-là, comme je vous disais, je suis en pleine forme. Ma greffe est une belle réussite. Et depuis ce temps-là, bon, je voyage, j'ai mon travail que j'apprécie énormément.
Mm-hmm.
Donc, je trouve que moi et d'autres amis, on est des bons exemples en fait que le don d'organes, ça fonctionne bien. Maintenant, on a des belles réussites au Québec. Puis c'est une raison de plus d'en faire la promotion.
Oui.
Oui.
Quels sont les services que votre organisme propose à ses membres?
Oui. En fait, à la base, nous, on était formés pour informer la communauté parce qu'il y avait vraiment un grand manque de diffusion de l'information. Donc, autant la création d'informations, que ce soit via nos magazines, dans les publications, sur les médias sociaux, ou la diffusion d'informations également pour les organismes gouvernementaux. En fait, les gens, des fois, sont un peu perdus à savoir à quel programme ils peuvent adhérer au gouvernement.
Mm-hmm.
Donc, nous, évidemment, on baigne là-dedans, donc on peut référer les gens facilement par rapport à ça. Et on a également un service d'aide directe. Donc, c'est pas des très gros montants, parce qu'on n'est quand même pas une très, très grosse association, mais on peut quand même soutenir les gens financièrement pour quand ils sont vraiment mal pris. Donc, que ce soit du dépannage alimentaire, un peu de soutien pour les déplacements, par exemple, pour aller à leurs rendez-vous médicaux, donc rembourser les frais de stationnement qui sont quand même très élevés,
ouais.
Ou les déplacements. Des fois, ça prend une nuit d'hôtel parce que il y a 11 cliniques de fibrose kystique à travers le Québec, mais quand on habite sur la Côte-Nord, il faut quand même se rendre à Québec. Donc, des fois, c'est loin, ça peut coûter cher. Donc, rembourser une nuit d'hôtel, rembourser un peu les déplacements. Donc, c'est grosso modo ce qu'on offre comme service.
Il y a 1500 membres, 1500 personnes qui sont atteintes de fibrose kystique.
Au Québec, il y a 1500 personnes qui sont atteintes. Et 65% d'entre elles ont plus de 18 ans. C'est quand même bien parce que les gens ont souvent l'impression que la fibrose kystique est une maladie infantile. C'est souvent l'image qu'on a en tête, mais la grande majorité des personnes maintenant vivent quand même assez vieilles. On a un
Cette
âge...
maladie-là, quoi, vous empêche de bien respirer?
Oui, en fait, le problème, c'est que pour faire une image assez simple à comprendre, vous savez, quand vous êtes malade, un rhume, une grippe, vous avez du mucus, donc vous mouchez, qui sert à faire sortir un peu le microbe, si on veut. Le problème à la fibrose kystique, c'est que le mucus est collant, épais, respire dans les voies respiratoires.
Aïe.
Donc, avec le temps, bon, ça respire. La gravité fait en sorte, évidemment, que ça descend. Donc, tranquillement, les poumons deviennent de plus en plus infectés. Les infections restent à l'intérieur. Et vous savez, quand on est malade, le corps produit encore plus de mucus pour se défendre. Donc, c'est une roue qui tourne, plus de mucus, plus malade. Donc, c'est le gros problème.
Alors, quand vous avez le rhume, c'est encore pire.
C'est encore pire. Donc, ça peut détériorer une situation rapidement. Donc, mener à une pneumonie. qui nécessite énormément de médication, de l'oxygène. Et c'est ce qui fait qu'en dernier, ça demeure difficile parce que les poumons, il ne reste presque plus de capacité à l'intérieur. Il reste un petit peu d'air qui peut rentrer dans l'eau des poumons. Donc, on dit que la fibrose cystique, c'est un peu se noyer de l'intérieur, si on veut.
Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais il y a eu quand même des progrès. Les gens mouraient plus tôt.
Oui, ben en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'on est quand même chanceux. On a l'âge médian de survie le plus élevé au monde, qui est de 54 ans au Québec, à travers le Canada aussi. Et quand on fait une comparaison pour voir un peu, là, avec les États-Unis. Aux États-Unis, l'âge médian de survie est de 39 ans. Ici, est de 54 ans.
Ah oui, comment vous l'expliquez?
Il y a plusieurs facteurs. Le plus important, en fait, c'est l'accès aux soins de santé qui est très différent par rapport aux États-Unis. Ici, on a un accès qui est quand même optimal parce qu'on a accès aux meilleurs traitements qui existent, ou presque, quelques différences parfois. Et au Québec, on a la chance d'avoir un système d'assurance médicaments qui rembourse presque l'ensemble des médicaments et peu importe la condition financière ou sociale de la personne. Et on a un accès également très rapide aux soins médicaux à l'hôpital. Donc, on est très chanceux par rapport à ça. On se compare assez bien avec les autres pays occidentaux, si on veut, qui ont un système semblable au nôtre. Et c'est la même chose pour les greffes pulmonaires. En fait, on a l'âge de survie le plus élevé post-greffe, donc qui est ici. Donc, on a des très bons médecins, tant à Montréal qu'à Toronto. Donc, on est très fiers de ces acquis qu'on a au pays.
Mais il y a encore de la place pour l'amélioration, pour repousser les limites, parce que, bon, vivre jusqu'à 54 ans, c'est quand même pas trop long.
Non. En fait, et c'est une de nos revendications, en fait, c'est que un des problèmes qu'on a actuellement, qui est quand même un heureux problème, c'est que la recherche médicale fait énormément de progrès. On a, par exemple, des médicaments qui sortent sur le marché en ce moment qui permettent pas nécessairement de guérir la maladie, mais qui permettent soit de ralentir et même d'arrêter complètement son développement.
Ah.
Oui, sauf que ces médicaments-là coûtent extrêmement cher. C'est 250 000 $ par année. Et évidemment...
La RAMQ ne rembourse pas ces médicaments-là.
Oui et non. En fait, on a un système de patients d'exception au Québec qui est unique en Amérique, qui permet de le rembourser sous certaines conditions extrêmement strictes, dont par exemple, une des conditions, c'est que la personne soit, par exemple, en fin de vie, ou presque. Et c'est une chose qui est un peu difficile à appliquer en fibrose cystique parce qu'une fois qu'on est près de la fin de vie, on ne peut pas prendre un médicament pour arrêter la maladie, il est déjà trop tard. Donc, ça serait important qu'on y ait accès plus tôt.
Ouais.
Donc, si on pouvait y accéder quand on est jeune, ça ferait en sorte que les manifestations plus importantes de la maladie arriveraient probablement jamais.
Alors, c'est, j'imagine, la principale demande que vous faites aux partis qui sont en campagne électorale en ce moment?
Oui, puis en fait, on ne veut pas non plus avoir un accès à 100% aux médicaments sans considération qui ferait en sorte qu'on y a automatiquement accès. On est d'accord, ça prend des restrictions assez importantes sur l'accès de certains médicaments parce que on comprend que si tout le monde a accès à des médicaments à 250 000 $ ça sera plus viable puis on n'aura pas accès à d'autres traitements par la suite. Donc, on est d'accord qu'il y ait quelques restrictions qui peuvent s'appliquer, mais il faudrait que ça soit élargi. Et un autre des problèmes qu'on a, c'est que souvent, on a l'impression que être assuré qu'une compagnie privée, ça donne des meilleurs résultats. Et en fait, dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessairement le cas, parce que parfois, on est assuré avec l'assurance publique et on y a accès. Mais on est assuré avec un assureur privé et on n'y a pas accès.
Oh.
Parce que l'assureur privé est tenu de rembourser ce que l'État rembourse, sauf que nous, on se le fait rembourser via un programme un peu spécial de patients d'exception auxquels ne sont pas tenus de rembourser les compagnies d'assurance privée. Donc nous, ce qu'on aimerait, ce serait que la RAMQ prenne toujours les décisions dans ce cas-là et qu'ils soumettent l'assureur privé aux patients d'exception lorsque le médicament devrait être donné à la personne.
Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer les gens qui sont au pouvoir pour justement parler de tout ce du problème, de vos réalités,
oui,
de vos enjeux?
Oui. En fait, on a surtout... ça, c'est une de nos nouvelles revendications, en fait, parce que les médicaments commencent à sortir. Mais une autre de nos revendications, c'est au sujet du don d'organes. Et ça, on a eu la chance, si on veut, de pouvoir faire des bonnes revendications. En 2015, j'ai déposé une pétition à l'Assemblée nationale concernant le don d'organes qui a été signée par 21 000 personnes et qui demandait en fait qu'on fasse une commission parlementaire sur le don d'organes, sur le même modèle un peu que mourir dans la dignité. Donc, on le voulait non-partisan. Parce que oui, on a des beaux succès en greffe, mais il en faut plus. Et on a plusieurs points à régler concernant le don d'organes. Le plus important, selon nous, est la formule du consentement. Parce que actuellement, quand vous voulez consentir au don d'organes, je vous ai posé un autocollant derrière votre carte de la RAMQ, ce qui signifie votre consentement. Sauf que le problème, c'est que ce sera toujours un proche qui va avoir le dernier mot. Donc, même si vous avez signé, même si vous l'avez mis dans votre testament, peu importe,
ça
si un seul proche s'oppose, on va arrêter le processus de don d'organes.
Oh, ouais.
Et c'est quelque chose qui est quand même qui a un impact énorme parce que seulement 1% de la population va pouvoir devenir donneur. Donc, c'est des conditions très strictes pour s'y rendre. Donc, évidemment, quand on perd un donneur, ça va nécessairement causer des décès sur la liste à venir là, plus tard.
Ouais. C'est sûr, oui. Alors, c'est bien de sensibiliser tout le monde à ce problème-là parce que il y en a certainement plusieurs qui n'étaient pas au courant. Qu'une fois qu'on a signé, on pensait que oui, on pouvait être respecté dans nos volontés, mais non.
Non, et souvent les gens même vont signer via leur testament ou via un notaire ou autre, et ont l'impression qu'à partir de ce moment-là, ça ne sera pas révocable par un proche, mais ce n'est pas, le cas. C'est jamais le cas, non.
Alors, un grand merci pour votre présence ici.
Merci
à vous. Cette entrevue très intéressante et pleine d'informations pertinentes. Tommy Richard Leboeuf-McGregor, directeur général de l'organisme Vivre avec la fibrose kystique. On peut aller faire un tour sur votre site internet vivreavec-la-fibrose-kystique.com pour en apprendre davantage et peut-être aussi faire des dons.
Oui, et rapidement, ce que je voudrais dire en ce moment, là, pour les gens qui sont à Montréal, dans l'itinéraire, il y a une belle chronique sur la fibrose kystique actuellement. Donc, si les gens veulent encourager deux causes à la fois, achetez l'itinéraire donc, pour en apprendre un peu plus sur nous.
Aussi.
Oui, merci à vous.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Bonne journée.